connaissez le journal. Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement dévoile depuis ce matin son fameux plan de relance de 100 milliards d'euros sur 2 ans dans l'espoir de surmonter l'épreuve de l'épidémie de coronavirus. Nous détaillerons évidemment ses principales mesures centrées autour de 3 axes, la compétitivité, la cohésion sociale et territoriale, sans oublier la transition écologique. Et sur ce dernier point, nous demanderons son avis à l'ancienne patronne d'Europe Écologie Les Verts, Cécile Duflot.
François Bayrou fait aujourd'hui son grand retour sur le devant de la scène politique nationale.
Oui, l'ex-candidat à l'Élysée, figure historique du centre, mais aussi fidèle soutien du président Macron, doit être nommé ce jeudi à la tête du Haut Commissariat au Plan. À l'étranger, après des mois de menaces et à moins de 9 semaines de la présidentielle américaine, l'administration Trump a mis sa menace à exécution hier contre la procureure de la Cour pénale internationale en lui imposant des sanctions économiques inédites.
Et puis après la maladie, l'angoisse du confinement, sans oublier les soirées streaming, place enfin au 7e art, le vrai.
Oui, hier soir, le plus ancien festival de cinéma du monde, la Mostra de Venise a officiellement ouvert sa 77e édition. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Des animaux dans les villes, pourquoi pas? Comment penser cette cohabitation? C'est le sujet du nouvel essai de la philosophe Joëlle Zask-Pétrarque cette année. Elle avait abordé la question des méga-feux dans son précédent ouvrage. Elle revient donc aujourd'hui sur cette coexistence qui lui semble tout à fait possible et même déjà existante. Il suffit de la mettre en place et de l'accepter. Nous en parlerons dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Alors que la France s'achemine vers la pire récession qu'elle ait connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, comment sortir enfin de cette crise dans laquelle l'a plongée l'épidémie de coronavirus? Depuis ce matin, le gouvernement dévoile donc les détails de son plan de relance et même, serait-on tenté d'ajouter, de confiance, qui ambitionne d'amortir en 2 ans les retombées économiques de la crise sanitaire. 100 milliards d'euros d'investissement au total, répartis autour de 3 priorités, transition écologique, compétitivité des entreprises et cohésion sociale. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, Anne-Laure, faut-il préciser donc la philosophie générale de ce plan qui, selon les propres mots du gouvernement, n'entend pas se contenter de penser les plaies mais de préparer l'avenir.
Oui, l'idée c'est de relancer la machine économique à court terme mais aussi à plus long terme, d'avoir une France plus compétitive, une industrie plus verte et de retrouver une certaine souveraineté économique, notamment en matière de santé. Le gouvernement fait le pari de garnir les bons de commande des entreprises via notamment des aides directes, des subventions à des projets de relocalisation et d'investissement, qu'ils soient portés par des entreprises ou des collectivités. Les dépenses consacrées à la transition écologique représentent le tiers de ce plan, une relance par l'offre. Il aurait été plus facile politiquement de faire de la relance par le pouvoir d'achat, reconnaît un ministre de premier plan, mais nous avons un problème d'offre en France et ça ne date pas de cette crise, ajoute-t-il. Une politique censée générer de l'emploi. Ce matin, Jean Castex fixe un objectif ambitieux, créer 160 000 postes l'an prochain.
Alors on l'a compris, l'objectif est d'aller au-delà en somme du seul rebond de l'économie frappée par la crise sanitaire. Et pour cela, Anne-Laure, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, rappelons-le, eh bien l'exécutif promet une exécution sans perte de temps.
Oui, c'est tout l'enjeu. Hein. Maîtriser l'affectation des subventions pour que l'argent ne se perde pas dans la nature. Comité de pilotage, conseil de la relance, réunion régulière des branches professionnelles. Bercy veut avoir le nez sur les projets qui demanderont des aides. Si l'exécution ne suit pas, on ne débloquera pas l'argent, prévient déjà Bruno Le Maire, et les fonds seront réaffectés à d'autres projets. Pour avoir des résultats rapides, le gouvernement va s'appuyer sur des projets déjà dans les tuyaux. Il faudra mettre de côté les considérations politiques quand, par exemple, la maire de Paris, Anne Hidalgo, demandera un financement. Accorder des aides à de nouveaux projets, c'est aussi s'exposer à la réglementation, au délai en termes d'appel d'offres, même s'il est aussi question de simplifier des procédures pour que ça aille plus vite. Comme le résume un membre du gouvernement, le défi, et il est paradoxal, ça va être de dépenser ces 100 milliards d'euros.
Évidemment, les chiffres sont impressionnants, on l'a dit, 35 milliards pour la compétitivité, 30 pour la transition écologique, encore 35 milliards pour la cohésion sociale. Se pose toutefois une question, alors celle de la conditionnalité de ces versements. Y aura-t-il en clair des contreparties à toutes ces promesses d'investissement?
Alors aujourd'hui, il n'y en a pas. Interrogé sur le sujet, le Premier ministre répond « Les entreprises doivent s'engager fortement pour l'emploi ». Un peu court, estime Philippe Martinez de la CGT, qui regrette notamment que la prime pour l'emploi d'un jeune ne soit pas conditionnée à une embauche en CDI. Laurent Berger de la CFDT appelle aussi à une conditionnalité des aides. Et à Bercy, on mardi, travailler sur la question avec trois axes, l'environnemental, la participation et l'intéressement, et des avancées en termes de gouvernance, égalité hommes-femmes ou encore plus grande participation des salariés aux décisions de l'entreprise. Les mauvais élèves pourraient être pointés du doigt publiquement. Pour les détails, le ministère de l'économie renvoie à cet automne et l'examen au Parlement de la prochaine loi de finances.
Merci Anne-Laure Jumet. Pour continuer d'évoquer ce plan de relance, notamment invité de la rédaction, aujourd'hui Cécile Duflo, ex-patronne d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour madame.
Bonjour, surtout directrice générale d'Oxfam France.
Absolument. Et à mes côtés pour vous interroger, Véronique Robérod. Bonjour Véronique. Bonjour. Une première question, madame Duflo. 30 milliards donc fléchés vers des objectifs environnementaux. On imagine que c'est une bonne nouvelle. Reste que pas plus tard que cet été, il y a donc pas si longtemps finalement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait assuré que son plan serait un plan de relance vert. Ce qui n'est pas le cas, puisque l'écologie n'y apparaît au fond que comme une priorité parmi d'autres. Est-ce que selon vous, Cécile Duflo, cela signifie qu'on est encore loin d'un véritable changement structurel de l'économie en faveur de la transition écologique ?
Oui, en fait, le vrai sujet, c'est toute cette question du modèle de développement, de ce jour d'après, de la leçon que tout le monde aurait dû tirer de cette grande crise dont nous ne sommes pas encore sortis, qui est celle du coronavirus. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont additionnées les unes à côté des autres. On peut dire que les choses sont très positives, en tout cas en termes d'annonces sur Beauvière, par exemple, sur le plan de rénovation. Avec la baisse des impôts de production de manière complètement unilatérale, sans éco-conditionnalité, comme en même temps, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par le gouvernement qui ne vont pas dans le sens de la transition écologique, on se rend compte que le vrai sujet, c'est justement la question de la cohérence de la politique qui est menée. Et si on veut être à la hauteur des défis, et notamment du défi climatique et de celui de la lutte contre les inégalités, il fallait prendre à bras-le-corps ces enjeux et orienter, utiliser le plan de relance dans cette direction-là, comme un vrai plan de relance vert pour aller vers un autre modèle. Et c'est pas le choix que fait le gouvernement.
Question de Véronique Robérot.
Le fait, Cécile Duflo, de faire de la rénovation énergétique des bâtiments un levier de la relance, ça devrait vous faire plaisir, ça, en tant qu'ancienne ministre du logement, vous demandiez ça?
Oui, mais si on se retourne juste l'année dernière, il y a eu de grandes annonces sur la rénovation thermique. On a souvent beaucoup d'annonces et un problème de manque de moyens dans la mise en œuvre. Donc on va être très vigilant. Vous savez, je suis dirigeante d'une ONG et un des principaux problèmes que nous avons pour réagir et pour travailler avec le gouvernement, c'est que parfois il y a de bonnes annonces qu'on salue et puis on se rend compte que la mise en œuvre est parfois complètement pas à la hauteur ou même contradictoire. Donc c'est ça qui est problématique. C'est entre ce qui est dit et ce qui est fait. Il n'y a pas toujours une cohérence d'action avec le discours. Donc nous, on sera très vigilants sur la mise en œuvre. Et je le dis, c'est la vision globale qui pêche. C'est quand on additionne des choux productivistes et des carottes écologistes, et ben on n'arrive pas à quelque chose qui tient la route et qui va préparer la France et engager la France dans cette transition nécessaire.
Alors parlons justement, Cécile Duflo, cohérence. Le gouvernement ne semble pas voir d'incompatibilité à parler à la fois de relance verte, de lutte contre le réchauffement climatique et en même temps d'investir dans le brun, comme on dit, autrement dit dans les énergies fossiles. La France pourrait avec Total soutenir un gigantesque projet gazier dans l'Arctique, plutôt incompatible hein, avec, on va dire, avec l'accord de Paris sur le climat. Vous avez dénoncé, vous avez écrit à Emmanuel Macron sur ce projet, que vous a-t-il dit ?
Oui, c'est un projet de Total qui s'appelle Arctic LNG 2, qui est un projet pour lequel Total demande que l'État garantisse ce projet. C'est de fait, ça ressemble à une subvention. En tout cas, c'est la mobilisation d'argent public pour soutenir un projet privé qui est complètement en contradiction avec une vraie transition énergétique, on l'imagine, mais aussi avec une transition de l'entreprise Total. Et c'est là un vrai problème puisque on prépare pas Total et ses entreprises pour l'avenir, mais parallèlement, il y a un an tout juste, quasiment au jour près, Emmanuel Macron était en tant que président français devant l'ONU et il s'est engagé à mettre fin aux garanties à l'export pour des projets qui sont des projets du type Arctic LNG 2 en disant on peut pas être incohérent, dire que le climat est une priorité et continuer de fait à subventionner des projets ailleurs dans d'autres pays qui contribuent au réchauffement climatique. climatique. Donc on voit bien la grande discordance entre les discours et les actes. Je le relie au plan de relance, il y avait un moyen assez simple de répondre à cette question, qui était de conditionner la baisse des impôts de production à l'investissement dans la transition écologique. Cette éco-conditionnalité qu'on demande avec toutes les ONG depuis des mois, c'est un système simple, c'est-à-dire d'accord, on peut vous aider, la période est difficile, on peut vous aider, mais en échange, transformez vos entreprises, engagez-vous dans la transition écologique.
Cécile Duflot, dernière question, et on vous entend.
L'État n'est pas mis en œuvre, donc l'État va autant financer avec le plan de relance total dans ses projets que Biocoop.
On vous pose une dernière question, on vous entend, on vous perd de temps en temps. L'autre sujet du jour, c'est la présentation au Conseil des ministres du projet de loi sur les néonicotinoïdes. Ce projet de loi donc ouvre la voie à des dérogations, notamment pour les producteurs de betteraves, d'avoir recours à des insecticides, ces néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ça vous laisse perplexe, cette volte-face et le fait que ça restera limité aux betteraviers? C'est ce que dit le gouvernement, mais on peut imaginer que ça ouvre la boîte de Pandore.
Alors, d'abord, c'est pas ce qui est dans le projet de loi tel qu'il existe aujourd'hui. Le projet de loi, il est fait pour permettre des dérogations à l'interdiction des néonicotinoïdes qui avaient été votées lors de la précédente mandature. Donc, on voit bien que c'est un gros recul. Et un gros recul aussi parce que dans ce projet de loi, dans cette loi, celle qui interdisait les néonicotinoïdes, on disait, il doit y avoir un principe, c'est la non-régression en matière environnementale. C'est-à-dire que sur ces questions-là, parfois on n'avance pas assez vite, mais en tout cas on ne fait pas marche arrière. Et là, avec ces dérogations, on fait marche arrière et on n'aide pas non plus le secteur agricole à engager cette transition. Donc c'est désastreux, triste, regrettable, mais je sais que beaucoup se mobilisent pour essayer de faire en sorte que ce projet de loi ne soit pas voté.
Merci Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France et ancienne patronne d'Europe Écologie Les Verts, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Véronique Robérotte et pardon encore pour cette liaison capricieuse. Comme prévu, Emmanuel Macron a acté ce matin par décret la nomination de François Bayrou au poste de haut-commissaire au plan et à la prospective. Un retour en grâce donc pour François Bayrou. Tout d'abord, 8 mois après sa mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son parti. Et puis un retour en grâce aussi pour cette institution très ancienne, créée en 1946, puis supprimée en 2006, et ce, même s'il faut bien reconnaître que dans sa version actualisée, elle n'aura en réalité qu'un lointain rapport avec son prestigieux ancêtre. L'occasion toutefois, Antoine Maret, de nous interroger donc à nouveau, qu'est-ce qu'un haut commissariat au plan ?
Cet organisme a été créé après la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où il fallait moderniser la France et où c'était l'État qui commandait aux entreprises. La problématique a changé, l'économie s'est mondialisée, libéralisée, sauf que la crise de la Covid-19 a agi comme un électrochoc en soulignant l'impuissance de l'État. Le retour du Haut Commissariat au plan marque donc une volonté de retour à l'État-providence au moment où un plan de relance de 100 milliards d'euros est annoncé. Son rôle sera de penser les politiques publiques sur le long terme, pas simplement sur les quelques années d'un mandat électoral, mais sur 10, 20, 30 ans, en tenant compte d'enjeux comme par exemple le vieillissement de la population qui pose des problèmes sanitaires, qui a un impact sur l'équilibre de l'assurance retraite, ou encore le réchauffement climatique auquel la France va devoir s'adapter. François Bayrou sera chargé d'analyser les faiblesses du pays et de faire des propositions à l'exécutif. Le patron du Modem espère, selon ses mots, avoir une capacité d'influence auprès d'Emmanuel Macron et de Jean Castex. Il aurait aimé n'avoir de compte à rendre qu'à l'Élysée. Mais même s'il a été nommé par le chef de l'État, François Bayrou dépendra en fait de Matignon. Il l'a dit et répété, il fera cela bénévolement, mais il bénéficiera d'un budget annuel de 15 millions d'euros.
En Slovaquie, on se souvient combien le double assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée, c'était en 2018, avait non seulement bouleversé le pays, mais aussi alimenté au sein de la population des soupçons de corruption politique de haut niveau. Au point d'ailleurs de déclencher à l'époque les plus grandes manifestations de rue depuis la chute du communisme et même de redessiner le paysage politique en renversant le parti au pouvoir. Et bien ce matin, Marianne Kosner, dont le nom apparaissait dans plusieurs enquêtes du journaliste sur des réseaux de corruption, ce richissime homme d'affaires accusé d'avoir commandité le double assassinat a été acquitté par la justice de son pays. Le tribunal spécial n'a pas suivi la démonstration des procureurs qui avaient pourtant requis une peine de 25 ans d'emprisonnement. En Bulgarie, alors que des manifestations contre la corruption, là encore, ont lieu quotidiennement depuis cet été, hier et pour la première fois, ces rassemblements ont été marqués des violences. Une centaine de personnes ont été blessées à Sofia lors de heurts entre les forces de l'ordre d'un côté et les opposants au Premier ministre de l'autre, lequel a finalement obtenu l'aval du Parlement hier pour lancer son projet controversé de réécriture de la Constitution. L'opposition y voit rien d'autre qu'une manœuvre destinée à maintenir les conservateurs et leurs alliés nationalistes au pouvoir. L'occasion de rappeler que 13 ans après son entrée dans l'Union européenne, la Bulgarie reste encore aujourd'hui son membre le plus pauvre et le plus corrompu. Une situation délicate évidemment pour Bruxelles, d'autant plus que le Premier ministre bulgare est lui bien connecté dans les cercles européens et surtout membre de longue date du Parti populaire européen. Les précisions de notre correspondant à Sofia, Damien Vodinicharov.
Des pétards, des feux d'artifice, des pavés, c'était l'arsenal des manifestants lors de ce qu'ils ont eux-mêmes appelé le grand soulèvement populaire, en écho au mouvement de libération du joug ottoman au XIXe siècle. Les échauffourées ont commencé dès 9h du matin et ont continué jusqu'à minuit. Une fois la foule dispersée, la police en a aussi profité pour balayer les tentes des sit-ins permanents qui bloquaient plusieurs grandes artères de la ville depuis plus d'un mois. Le mécontentement a atteint son apogée suite à une initiative constitutionnelle du parti GERB du Premier ministre Boyko Borisov. Souvent critiqué pour les défaillances du système judiciaire, Borisov cherche à y remédier avec cette nouvelle constitution. Elle prévoit par ailleurs de diminuer le nombre de députés et de limiter davantage les pouvoirs du président de la République. Le texte, largement critiqué par les manifestants mais aussi par les alliés politiques d'extrême droite du Premier ministre, a finalement été approuvé par 127 voix sur 240, ce qui ouvre la porte à la procédure d'adoption. Celle-ci est longue et compliquée et le vote n'interviendra pas avant 5 mois. D'après les manifestants, en entamant cette procédure, le Premier ministre ne cherche qu'à gagner du temps jusqu'aux prochaines législatives prévues au printemps 2021. Il demande la démission immédiate du gouvernement et du procureur général, accusé de corruption et de lien avec l'oligarchie.
Voilà, correspondance à Sofia, donc signé Damien Vodinicharov. Qu'il semble bien loin, le temps où le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, n'avait de cesse d'accuser la Russie de chercher à le chasser du pouvoir pour vassaliser son pays. Désormais, ébranlé par une contestation populaire sans précédent, l'autocrate à la main de fer affaiblie ne semble plus rechigner à prendre celle tendue par son voisin. C'est ainsi que Moscou a non seulement annoncé la visite aujourd'hui de son premier ministre à Minsk, mais aussi une probable prochaine rencontre entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, lequel a d'ailleurs repris son ton péremptoire pour dénoncer les tentatives de déstabilisation de son pays, mais visant cette fois-ci un complot occidental. Deux jours après la visite de son adversaire dans la course à la Maison-Blanche, Donald Trump, Joe Biden aura probablement à cœur de marquer le contraste avec son rival en rencontrant aujourd'hui à Kenosha la famille de Jacob Blake, cet afro-américain grièvement blessé de 7 balles dans le dos tirées par un policier blanc. Affaire qui a, vous le savez, provoqué une nouvelle vague d'indignation contre le racisme et des émeutes. Reste que pour faire de cette rencontre donc un éventuel marqueur de la campagne présidentielle, eh bien Joe Biden ne devra pas arriver les mains vides. L'avertissement est signé de l'oncle de Jacob Blake que notre envoyé spécial Omar Waman a pu rencontrer.
La rencontre se tiendra dans un lieu tenu secret, loin de la maison de la famille Blake, devant laquelle Jacob a été grièvement blessé. Selon son oncle Justin, ils ont dû changer plusieurs fois d'adresse ces derniers jours.
On a dû déménager la famille car mon frère a reçu des menaces de mort suffisamment sérieuses pour qu'il décide d'aller vivre ailleurs, pour que tout le monde soit en sécurité.
Et s'il était impossible pour la famille de recevoir Donald Trump il y a deux jours, trop raciste, dit-il. Avec Joe Biden, en revanche, la situation est totalement différente.
C'est une bonne nouvelle que Biden vienne nous rendre visite, mais on ne veut plus de promesses, plus d'écrans de fumée, plus de blabla, on veut des actes.
Des actes concrets, en échange d'un appel à voter pour le ticket démocrate Joe Biden-Kamala Harris, qui a besoin du vote afro-américain pour gagner le 3 novembre prochain.
Si les Afro-Américains votent, on peut faire la différence. Mais pour cela, on veut du concret que l'on peut présenter aux familles afro-américaines et leur dire « Sortez, votez pour Biden ».
Faire de cette rencontre avec Joe Biden un tournant dans cette campagne électorale américaine, c'est l'objectif de la famille de Jacob Blake.
Alors si pour le président Donald Trump, dénoncer l'insécurité en marge des manifestations contre le racisme et les violences policières est une façon de détourner l'attention de la pandémie, le gouvernement n'en prépare pas moins activement la distribution à grande échelle d'un éventuel vaccin contre le coronavirus d'ici le 1er novembre, soit juste avant l'élection présidentielle. Dans une lettre envoyée récemment au gouverneur, le directeur des centres de prévention et de lutte contre les maladies mentionne notamment la levée de restrictions administratives, de même que la délivrance de permis et autres licences. Une indication supplémentaire donc de ce que la course au vaccin est aujourd'hui lancée à toute allure aux États-Unis, le pays, rappelons-le, le plus touché au monde et qui par ailleurs a déjà dépensé des milliards de dollars pour le développement et la production d'un remède au coronavirus. Dernière d'une longue série de mesures de politique étrangère unilatérale et radicale, l'administration Trump a mis hier ses menaces à exécution en plaçant la procureure de la Cour pénale internationale sur sa liste noire. En l'occurrence, Fatou Bensouda, déjà persona non grata aux États-Unis, s'est vu imposer des sanctions économiques inédites, le gel de ses éventuels avoirs, mais également l'interdiction désormais d'accéder au système financier américain. Alors pour bien comprendre l'origine de ces mesures punitives, sans doute faut-il rappeler que l'administration Trump ne décolère pas depuis que la dite procureure a ouvert, c'était en mars dernier, une enquête pour des crimes de guerre présumés de l'armée américaine en Afghanistan. Les précisions de Claude Guibal.
Viol, torture, exaction, l'enquête que la CPI a ouverte en mars sur les crimes présumés de l'armée américaine et la CIA en Afghanistan avait déjà provoqué, on s'en souvient, la fureur de Donald Trump. Visé, entre autres, les centres de détention cachés à l'étranger que les États-Unis ont utilisés pour interroger leurs prisonniers loin de toutes les conventions internationales. À l'époque, Washington avait déjà interdit de séjour Fatou Bensouda sur le territoire américain. Mais là, l'administration Trump passe à la vitesse supérieure en la frappant, ainsi qu'un de ses adjoints, d'un gel de ses éventuels avoirs financiers aux États-Unis et de tout accès au système bancaire américain. Et les États-Unis ne s'en tiennent pas là. Ces sanctions, préviennent-ils, vaudront pour toute personne ou toute entité qui apporterait sa coopération à la CPI dans ses enquêtes. Washington veut également l'abandon d'un autre dossier de la CPI contre Israël cette fois. Israël qui pourrait faire l'objet d'investigations pour crimes de guerre en Cisjordanie et à Gaza. Mais ce rejet des États-Unis de la CPI n'est pas né avec Donald Trump. Les États-Unis n'ont jamais adhéré à cette institution. Pas question pour eux de laisser des soldats ou des dirigeants américains être jugés par d'autres qu'eux, encore moins au moment où Donald Trump entend toujours tenir sa promesse de se désengager du bourbier afghan avant l'élection de novembre. Donald Trump qui ne veut à aucun prix que son pays soit accusé de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité.
Premier grand festival à se tenir dans un monde toujours bouleversé par la pandémie de Covid-19, la 77e Mostra de Venise a officiellement ouvert hier soir. Comme un défi évidemment à ce virus qui, on le sait, a contraint nombre de salles de cinéma à fermer. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour Thomas et bonjour à tous.
Alors, rappel cruel des contraintes avec lesquelles doit cependant composer le festival. La Mostra a dû renoncer au défilé habituel de stars malgré tout. Et pour ses grandes retrouvailles donc du cinéma mondial, était présent notamment la présidente du jury, Kate Blanchett, la star australienne, qui n'a pas caché d'ailleurs ses craintes et ses peurs. Mais il faut être courageux, a-t-elle exhorté, avant d'appeler, Mathieu, l'industrie du cinéma à faire son aggiornamento sur la place du streaming et des salles de cinéma.
Oui Thomas, cet appel de Venise navigue entre vœux pieux et supplique au plus de solidarité, moins de concurrence d'Alberto Barbera, directeur artistique de la Mostra. Marion, l'affirmation de Vania Kaludjercic du Festival International de Rotterdam, nos valeurs confirment que l'avenir du cinéma existe. Vibrant plaidoyer pour un cinéma européen qui souffre d'une offre à la baisse, en premier lieu d'une pénurie de films dits porteurs, à savoir des blockbusters dans les tiroirs d'Hollywood en attendant des jours plus sûrs. Quel avenir pour l'Europe du cinéma ? Question brûlante quand on se penche sur le tableau de bord français. Depuis le déconfinement et la fin juin, moins de 70% d'entrées dans les grandes salles et entre 50 et 60% de pertes dans les cinémas indépendants par rapport à l'été 2019. Alors, à quelle mise à jour, pour reprendre la suggestion de Kate Blanchett, procéder sur la place du streaming et dans les salles de cinéma ? Point de monoculture du streaming, selon Laurent Creton, économiste du cinéma, et, selon lui, une prise de parole hier soir à Venise qui ouvre un horizon abîmé.
Cela apporte d'abord aux spectateurs cette référence à la créativité, à la sensibilité, à la diversité des œuvres que l'on peut rencontrer dans une salle de cinéma. Et donc, de ce point de vue, cela me semble tout à fait utile. Je considère que les professionnels du cinéma ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient. La situation va s'arranger. La difficulté, évidemment, c'est le tempo, c'est-à-dire pendant combien de temps cette crise sanitaire va-t-elle continuer à peser sur la vie de nos concitoyens.
Voilà, Thomas, la Mostra 2020 restera le premier festival en pleine crise qui envoie aux amoureux du cinéma. Le message suivant, le monde appartient à ceux qui vont le rêver dans les salles, au risque, Thomas, de détourner un slogan que les auditeurs de France Culture entre deux âges ne méconnaissent pas. Il s'agit de...
Le monde appartient à ceux qui l'écoutent. Merci Mathieu Laurent. On se termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Nuageux sur le nord-ouest, ensoleillé partout ailleurs. Quant aux températures, elles afficheront entre 21 et 32 degrés. Audrey, c'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.